Bougival, c'est fini. Déclaration des élus de l'Union calédonienne ce matin lors d'une conférence de presse à laquelle participait en visioconférence Christian Théin. Un nouveau président pour Prony Ressources, Thibaut Martelin, vient d'être nommé en lieu et place de Béatrice Pierre. Le général François Houchin, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, a pris ses fonctions au début du mois. Il sera notre invité dans quelques minutes. L'autorité de la concurrence a rendu sa décision sur le dossier des commissions qu'Air Canada verse aux agences de voyage. La CNC avait été saisie en décembre dernier. La province sud fait marche arrière. Les élus ont rétabli ce matin le dispositif antérieur d'attribution des bourses scolaires. Et puis les sports, Maxime Grousset va tenter de décrocher une nouvelle médaille ce soir au championnat du monde en natation. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une, ce soir, l'actualité institutionnelle. L'Union calédonienne confirme qu'elle rejette formellement l'accord de Bougival. Face à la presse, sa commission exécutive est revenue sur les raisons de son refus d'un document qui, pour elle, n'est qu'un projet d'accord, Elisabeth Noir.
C'est la commission exécutive du parti qui rencontrait la presse. Ses deux négociateurs et signataires sur trois étaient présents, en l'occurrence le président de l'UC, Emmanuel Tchibaou, et Michael Forest. Présent également en visioconférence par smartphone, le commissaire général de l'UC, Christian Théin, qui a suivi attentivement la conférence de presse et qui est même intervenu pour une brève déclaration. L'objectif, c'était de dresser le bilan du comité directeur qui s'est réuni ce samedi à la tribu de Gatop à Vaud. Un comité directeur qui a rejeté l'accord de Bougival, et nous avons demandé à Emmanuel Tchibaou s'il ne se sentait pas désavoué.
J'ai signé un projet d'accord qui devait être soumis aux bases. Les bases se sont prononcées. J'acte ce que les bases ont prononcé.
Mais vous, quand vous l'avez signé, vous avez pensé que ça pouvait être un bon accord ?
Quand j'ai signé, c'était sur la base d'engager des amendements à l'intérieur desquels le retour devait se faire, dans un premier temps avec les structures du front et dans un deuxième temps avec les experts constitutionnalistes, politiques, pour évaluer la cohérence de ce qui avait été posé sur la table. Mais moi, je n'avais pas mandat pour signer un accord politique, j'avais mandat pour sanctuariser les discussions et les ramener afin qu'on puisse se prononcer, dans la mesure aussi où à Deva, il n'y avait pas eu de document autre que celui de la conférence de presse du ministre d'État. Donc à partir de là, on a fait durant les séquences des amendements sur cette version qui est la version 4 et un certain nombre de nos propositions qui n'ont pas été intégrées. Du coup, on a dit il faut poursuivre la discussion.
Aujourd'hui, le secrétaire général le dit, Bougival, c'est fini, vous êtes d'accord?
C'est ce qui a été acté à Gatop samedi dernier. Bougival, le projet d'accord en l'état, pour l'instant, on poursuit la discussion et puis on s'engage avec l'ensemble des autres structures du front d'engager des perspectives sur la poursuite des discussions.
Un projet d'accord rejeté par la base, selon Emmanuel Tchibaou, mais l'UC se dit prête à poursuivre les discussions. Le document de Bougival est cependant vivement critiqué. L'UC estime que ses propositions n'ont pas été prises en compte et elle parle d'un leurre de souveraineté permettant le maintien de la Calédonie française.
L'État a déjà repris des initiatives en communiquant et puis par voie de courrier pour nous engager les uns et les autres à alimenter la réflexion, autant sur le comité de rédaction, loi organique, loi fondamentale. À l'heure d'aujourd'hui, nous, la question qui se pose, c'est qu'on s'est engagé sur un mandat politique. Le document qui est porté comme compromis historique, et je rappelle encore une fois, compromis, ça signifie acceptation. Nous, on n'a pas accepté, puisque ça devait être soumis aux bases. Et que, clairement, sur des points de l'accord politique, beaucoup de questions ont été posées à Bougival et qui n'ont pas eu de réponse. Donc, de dire qu'on va répondre sur la seconde partie dans la loi organique spéciale ou la loi fondamentale, on place d'abord le débat sur le plan politique.
Vos mandats tombent de fait, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que ceux qui ont été désignés pour discuter à Bougival, aujourd'hui, si l'accord est mis à l'eau, une autre équipe discutera.
Une autre équipe pour mener les discussions, alors que le comité directeur de l'UC indique que ce document est ressenti comme un projet d'intégration à la France, présenté sous l'apparence d'une décolonisation. Selon l'Union calédonienne, ce document semble entériner le renoncement des Kanaks à deux principes fondamentaux, leur reconnaissance en tant que peuple et leur droit propre à la décolonisation reconnu en droit international. Dans ce contexte, elle juge indispensable la réunion du congrès extraordinaire du FLNKS qui se tiendra le samedi 9 août à la Conception.
Ce que j'attends du Congrès, c'est que déjà les retours puissent se faire dans cette instance plénière, qui est l'instance où les décisions importantes sont formulées, sur les perspectives. Bougival, comment on fait ? Nous, l'Union calédonienne, on s'est prononcé. On n'est pas tout seul dans la barque. Il y a aussi Dynamique Autochtone, USTKE, Parti Travailliste, MOI, la DUS et RDO. Donc c'est à chacun de poser, d'une part, les analyses sur le projet d'accord, et puis de deux, de faire l'exercice de dégager des perspectives, parce qu'on est tous engagés, enfin en tout cas le FLNKS au congrès des quatre cocotiers à Saint-Louis s'est engagé pour un accord de sortie de l'accord de Nouméa. C'est là où les discussions se sont arrêtées pour nous et que les débats s'engagent aussi pour nous.
Et j'ajoute que le comité directeur de l'UC engage ses structures à maintenir la mobilisation sur le terrain et ses représentants politiques à poursuivre le travail de lobbying au niveau local, régional, national et international.
Vos rendez-vous d'antenne sur Radio Rythme Bleu, c'est Alcide Ponga, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président également du Rassemblement, qui sera demain midi votre invité, Elisabeth Noir, dans le magazine Transparence. Il sera donc interrogé sur les négociations de Bougival auxquelles il a participé et sur les réactions que suscite le projet d'accord. Au sommaire également, les réformes mises en œuvre par le gouvernement et la politique régionale de la Calédonie. Alcide Ponga, invité de Transparence, est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Autre rendez-vous d'antenne demain sur Radio Rythme Bleu. Nous parlerons de Cap Horizon, le nouveau nom du Salon des études supérieures. Il aura lieu samedi. Une formule revisitée, mais qui permet toujours aux jeunes et à leurs familles de prendre connaissance de l'offre de formation. Cap Horizon, nous en parlerons avec Valérie Poirmeur, déléguée académique à l'information, à l'orientation et à la persévérance scolaire vice-rectorat, et Sylvian Raffard-Artigue, le directeur de la communication de l'UNC. Ils seront nos invités demain à 7h30. Un nouveau président à la tête de Prony Ressources. Il s'agit de Thibaut Martelin. Il succède à la Béatrice Pierre, une annonce faite à la mi-journée par PRNC à la suite de son Assemblée Générale, Jean-François Baudin.
Thibaut Martelin, membre du Conseil d'administration depuis plusieurs mois en tant que représentant de la Société de participation minière de Sud-Calédonien, SPMSC, actionnaire de la société, prend donc ses nouvelles fonctions aujourd'hui. Il aura pour mission de poursuivre et d'amplifier les axes stratégiques de développement de Prony Ressources, notamment faire avancer les chantiers de transformation de PRNC, maintenir un dialogue constructif avec les partenaires, mais aussi suivre de près les discussions en cours avec le repreneur potentiel et l'État. Thibaut Martelin possède une solide expérience dans l'industrie minière puisqu'il a exercé des fonctions de direction générale dans des environnements complexes et multiculturels en Guyane, en Afrique de l'Ouest et donc en Nouvelle-Calédonie.
Débutés en décembre 2022, les travaux de confortement du barrage de la Dumbéa entrent dans leur phase la plus critique. Il s'agit de la découpe et de la reconstruction du seuil des versants. L'objectif de ces travaux est d'assurer de façon pérenne la sûreté de l'ouvrage. Cet après-midi, Jérémy Katidjo-Monnier, membre du gouvernement chargé de la politique de l'eau, et Adolphe Digoué, en charge de l'agriculture et de l'élevage, ont visité le chantier pour faire un point d'avancement avec l'ensemble des partenaires du projet. L'autorité de la concurrence a rendu sa décision sur le dossier des commissions Kercalin verse aux agences de voyage. Elle avait été saisie fin décembre 2024, Jean-François.
Le syndicat des agences de voyage contestait la décision de la compagnie de ne plus verser la commission de 5% sur les billets vendus en agence, alors qu'elle continue de le faire pour les agences hors de Nouvelle-Calédonie. Dans la décision qu'elle a rendue, l'autorité de la concurrence a constaté qu'Arcalin abusait, en supprimant cette commission aux agences de voyage calédoniennes, de sa position dominante. C'est ce que nous a dit son président Stéphane Reterer.
On s'est rendu compte avec Aircalin que ce système permettait à Aircalin, que ce soit sur le marché de services des agences de voyage ou Aircalin à travers son agence locale détient à peu près 60% des parts de marché, ou que ce soit même sur le marché des services de transport, mais sur ces deux marchés, Aircalin est en position dominante et à travers ce système risquait d'abuser de sa position dominante. Deuxièmement, le contrat avec les agences de voyage était rompu, on va dire brutalement pour faire simple. Et ça aussi, une rupture brutale de contrat peut caractériser un abus de position dominante.
Une situation pour laquelle Aircalin risquait une sanction. L'autorité de la concurrence a donc travaillé avec la compagnie pour éviter d'en arriver là. Et Aircalin a pris un certain nombre d'engagements.
Le nouveau système de rémunération entrera en vigueur pas avant mai 2028. Donc on a négocié 18 mois pour permettre aux agences de voyage de se retourner, de négocier éventuellement un meilleur système avec Aircalin. Et les rabais qui étaient considérés comme fidélisants ou rétroactifs ont été supprimés. Donc Aircalin s'est engagé à mettre en place des systèmes qui ne mettent pas en place un mécanisme de rabais, ce qu'on appelle fidélisant et d'exclusivité, et de rétroactivité. Et dans le cadre de ces engagements, nous, on s'engage pendant cette durée de 18 mois de les suivre et de vérifier que tout ça respecte les engagements d'Aircalin. Donc nous, si vous voulez, autorité de la concurrence, on va suivre cette évolution tout faire en sorte que tous les engagements d'Air Calais soient respectés.
Le syndicat des agences de voyage reste circonspect, car selon lui, le risque de suppression de la commission reste une possibilité au terme du délai accordé à la compagnie par l'autorité de la concurrence. La présidente du syndicat, Vaïa Frogier, rappelle que cette solution signerait la mort des agences de voyage en Nouvelle-Calédonie.
Le rapport qui est remis par l'autorité semble valider cette suppression. Donc on va prendre le temps de bien prendre connaissance des conclusions, mais il y a beaucoup de choses qui nous interrogent, oui. Il n'est pas question pour nous demain de voir nos entreprises privées détruites, réduites à néant et fermées parce qu'une compagnie aérienne qui est subventionnée par la puissance publique a décidé de ne plus nous rémunérer. Donc on va continuer à rencontrer et discuter avec la compagnie Air Calin, continuer à faire valoir nos arguments et surtout poursuivre le service que l'on rend à nos clients, parce que la finalité, c'est bien ça. C'est le service qu'on doit à nos clients et s'assurer de leur satisfaction. Si nous, les agences de voyage, nous n'existons plus, les Calédoniens n'auront pas d'autre choix que d'aller faire la queue chez Air Calin. Les Calédoniens doivent continuer à avoir le choix et pour ça, nous, les agences de voyage, on doit continuer à exister.
Le dossier n'est donc pas clos, mais les trois parties devraient poursuivre leur discussion au moins pendant 18 mois. Pendant cette période, la compagnie continuera de verser les 5% de commission aux agences de voyage.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. On démarre avec la réponse à notre question d'hier. 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que les élus ont eu raison de durcir les conditions d'éligibilité au dispositif Continuité Pays pour les habitants des îles. Ils sont 6% à ne pas partager cette opinion. Notre question du jour à présent, la situation de la Nouvelle-Calédonie justifie-t-elle, selon vous, la politique de rigueur mise en œuvre par le gouvernement? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. 17h, passé de 57 minutes, première pause dans ce journal avant de recevoir notre invité, le général François Houchine, commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme ECO permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegale@rrb.nc ou au 25 46 46. Info Soir, Léo Fichou.
Un invité dans ce journal, nous recevons en effet le nouveau commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, le général François Houchine. Bonjour mon général.
Bonjour monsieur.
Avant, avec Jean-François Baudin, nous allons revenir sur certains dossiers que vous avez eu à gérer depuis votre arrivée et votre prise de fonction, c'était le 5 juillet dernier.
Oui, général Houchine, avant de revenir sur ces dossiers, notamment celui qu'on appelait les dossiers des évadés de Koné, qui situe le cadre de votre action et de la manière dont vous voulez la mener en Nouvelle-Calédonie, un mot sur votre parcours, parce que les Calédoniens ne vous connaissent pas encore beaucoup. Je rappelle qu'avant de venir en Calédonie, vous étiez depuis 2022 officier de liaison et conseiller gendarmerie au cabinet du préfet de police, Laurent Nunez. Vous avez auparavant commandé le groupement de gendarmerie départementale du Cher. C'est vous qui avez demandé votre affectation en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi vous avez fait ce choix?
Pourquoi j'ai fait ce choix? Tout à fait, je l'ai demandé, j'étais volontaire. Je souhaitais ardemment servir en Nouvelle-Calédonie et dans un territoire ultramarin, mais la Nouvelle-Calédonie en particulier, pour plusieurs raisons. Une raison tout à fait personnelle, je suis moi-même ultramarin de par ma maman, qui est martiniquaise. Donc j'ai une appétence pour les îles, l'éloignement et les particularités de l'outre-mer. Et puis aussi parce que je suis un officier de gendarmerie et que je suis un militaire et que finalement, me déplacer loin de chez moi et partir à l'aventure, c'est quelque chose qui me convient et qui m'agrée totalement.
Issu aussi d'une famille de militaires. Hein.
Issu aussi d'une tradition dans votre militaire, famille. Papa militaire, un grand-père militaire de carrière dans les Ardennes. Donc oui, bien, les, bien installé et bien vertébré dans le service à la patrie.
Alors justement, on l'a évoqué il y a un instant, vous avez pris vos fonctions le 5 juillet dernier et l'un des premiers dossiers que vous avez eu à gérer à la suite du commandant du général Mathéos, c'est le dossier des évadés de Koné. Hein. Ils étaient 5 à avoir pris la poudre d'escampette le 13 mai du centre de détention de Koné. Aujourd'hui, 4 sur ces 5 ont été retrouvés. Ça illustre l'action que vous voulez mener, la manière dont vous voulez mener votre mission en Nouvelle-Calédonie ?
Ben écoutez, oui, donc vous l'avez souligné, je ne suis pas quand même en poste depuis extrêmement longtemps, mais avant tout, en tant que gendarme, je voudrais simplement dire que lorsqu'on a des évadés dans la nature qui commettent un certain nombre de cambriolages, un cambriolage, c'est un viol. Donc que l'on vole un œuf ou que l'on vole de la hi-fi vidéo, ça reste un vol. Et ça, c'est pas admissible. Et quand on est gendarme, eh bien, on va de la loi à la loi par la loi. Pas plus, mais pas moins. Vous me posez la question des conditions de mon arrivée. Effectivement, peut-être remettre un peu le contexte général. Le contexte général, c'est que dans la nuit du 13 mai 2025, il y a 5 détenus qui s'évadent du centre de détention de Koné. Il y a un 6e qui est intercepté dans l'enceinte. Pour autant, il y en a 2 qui sont repris le même jour. Pour autant, il y en a 3 qui entament une cavale de plus de 10 semaines à travers le territoire. Et bien sûr, cette cavale, elle est ponctuée de quoi ? Ben, elle est ponctuée de faits de délinquance, des vols aggravés, et je devrais même commencer par là, des atteintes aux personnes, des cambriolages, des refus d'obtempérer et un cambriolage à la voiture balayée, en tout cas pour les faits qui leur sont reprochés. Je reste prudent.
C'était à la station de service de Moindou.
Exactement. Donc on a finalement, mon appréciation de situation, je me rends compte qu'on a un profil de délinquants, d'une dizaine d'individus qui agissent souvent en tiroir, entre Nouméa, La Foy, Moindou, Canala, Koné, la côte Est. Une organisation en bande structurée qui est capable quand même de se mobiliser pour voler des véhicules, se fondre également dans les tribus et puis contourner nos dispositifs. Et donc, à travers la reprise de ces évadés de Koné, sous l'autorité du haut-commissaire de la République et sous la direction en matière de police judiciaire du procureur de la République, il faut le souligner, la réponse de la gendarmerie, je l'ai souhaité dès le 10 juillet, la plus ferme et la plus immédiate possible. Selon le principe « first in, first out », j'y reviendrai. Mais je crois qu'on a besoin de saturer. Je pense que nous devons rassurer les populations et je pense qu'il faut agir le plus immédiatement possible.
Alors « first in, first out », expliquez-nous ce principe, Général Aouchine.
Le principe, en réalité, est très assez simple. Il s'agit de saturer une zone et d'être présent là où il le faut, quand il le faut. Je réinterroge les modèles et je demande à l'ensemble des gendarmes de la Nouvelle-Calédonie de manœuvrer, en liaison, bien sûr, et en premier chef, avec les élus de nos communes, mais aussi nos partenaires, que sont les polices municipales et tout autre acteur de la sécurité, pour savoir où, finalement, appliquer les points, ce que nous appelons dans le jargon les points d'application de la délinquance. Et puis après, vous dire également que ce first in, first out, il s'appuie sur 3 grands concepts et 3 grands principes. Je ne les ai pas inventés, mais ce sont les 3 niveaux, j'allais dire, classiques de réponse qu'offre la gendarmerie, une combinaison des effets. Le premier effet, c'est l'enquête et le recueil du renseignement immédiat. C'est l'ouverture de plusieurs enquêtes. C'est l'engagement des brigades de recherche de tout le territoire. C'est l'engagement de l'antenne GIGN. C'est l'engagement de la section de recherche. C'est l'emploi de techniques spéciales d'enquête. C'est du renseignement humain. Un deuxième volet aussi très complémentaire et non moins important, et j'insiste sur ce point, c'est la prévention et la sécurisation. Vous ne le savez pas, mais j'avais indiqué quelque temps auparavant qu'il y a des dispositifs visibles et invisibles. Dans les dispositifs visibles, eh bien, il y a la cellule de prévention technique de la malveillance, très clairement des gendarmes, qui vont donner des conseils, en particulier aux propriétaires de stations-service, pour leur dire comment orienter leur éclairage, leur dire qu'il faut mettre de la vidéoprotection. Et tout ce dispositif-là, finalement, eh bien, nous sert, parce qu'il nous permet de mieux identifier les individus que nous recherchons par le biais de diagnostics. Et puis enfin, un troisième volet très important, c'est le contrôle du terrain et l'interpellation. Ça répond à ce que je vous disais tout à l'heure, être là quand il faut, saturer le terrain. Dès le 10 juillet, j'ordonne la bascule de 2 pelotons de gendarmerie supplémentaires en renfort des renforts déjà existants. Et puis finalement, à partir du 26 juillet, ça paye.
Vous retrouvez un certain nombre de ces évadés. Ça veut dire, Général Aouchine, que pour mettre en œuvre cette politique que vous venez d'expliquer, il faut un nombre suffisant de forces de l'ordre et notamment de gendarmes. Vous avez aujourd'hui ces forces en nombre suffisant ?
J'ai ces forces en nombre suffisant, mais au-delà du chiffre et du quantitatif, il y a aussi le qualitatif. Je demande à mes gendarmes, de façon très claire et très ferme, d'alterner les passages en véhicule avec les patrouilles pédestres. Je demande aux gendarmes d'aller à la rencontre des populations à pied. C'est ainsi que j'ai été formé lorsque j'étais jeune gendarme. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les populations. Les populations me le disent, elles le font. Et j'attends aussi des populations, et je l'ai dit aux élus, n'hésitez pas non plus à arrêter les gendarmes lorsqu'ils sont en voiture. Ça doit marcher dans les deux sens. C'est peut-être un peu simpliste, mais c'est comme ça que ça fonctionne le mieux.
Alors, il y a quatre des évadés de Koné qui ont été arrêtés et interpellés. Il y en a un cinquième qui est toujours dans la nature. Ça veut dire que vous continuez les recherches ?
Alors, ça veut dire qu'on continue les recherches. Tout d'abord, sur l'évasion elle-même, l'évasion d'un centre de détention, c'est un acte particulièrement grave que la justice suit de très très près. Donc là, clairement, la gendarmerie est dans sa mission de retrouver des délinquants, pour ne pas dire des criminels. Sur l'ampleur de la traque aussi. Nous sommes face à des délinquants qui ont multiplié des faits dans tout le territoire, en particulier dans la Brousse. Donc nous avons fait le choix d'une approche, j'allais dire, globale. Sur la coordination des moyens, je voudrais vous dire aussi que la gendarmerie mobilisait toutes les unités de gendarmerie, du gendarme territorial jusqu'au GIGN, ont été engagées. Et c'est la conséquence ou la combinaison de ces différents effets qui ne se sont pas additionnés mais multipliés. Et puis enfin, je voudrais dire aussi, et ce n'est pas un poncif, je tiens à le dire à la population, la gendarmerie est là pour protéger tous les Calédoniens face aux inquiétudes actuelles qui sont légitimes. Donc nous devons être présents, nous devons être visibles pour tous les Calédoniens.
Ces inquiétudes manifestées par la population calédonienne, vous l'avez ressentie depuis votre arrivée ?
Bien sûr, je ne vais pas la nier, j'ai ressenti qu'il y a une inquiétude et ça se comprend. Moi, je ne suis pas là depuis longtemps sur le territoire, mais c'est évident. Et plus que jamais, je trouve que notre métier a du sens et il a du sens au sein d'un collectif. Et ce collectif, encore une fois, c'est l'ensemble des forces vives de la Calédonie sous l'autorité du haut-commissaire qui nous demande cela et puis du procureur de la République qui incarne aussi l'autorité judiciaire et qui poursuit réellement.
Donc proximité évidemment avec les populations, avec les élus, avec les responsables, mais aussi de la fermeté, c'est bien ça le message que vous voulez faire passer ?
Oui, clairement. Je suis un homme de bienveillance, mais je suis aussi un homme de fermeté. Et la délinquance, non. Clairement, non. Donc nous en recherchons encore un évadé. Je ne suis pas certain qu'il écoute cette radio, mais en tous les cas, je lui conseille fermement de se rendre, vraiment, parce que je peux vous assurer qu'à l'heure d'aujourd'hui, sa photo est diffusée dans toutes les unités et patrouilles de gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Et on ne lâchera pas. Et on ne lâchera rien.
Et ça, c'est valable pour ce dossier comme pour les
ça
autres dossiers
pour tous
que
les dossiers.
Vous aurez à traiter.
Il n'y aura pas de renoncement avec la gendarmerie pour la sécurité de tous les Calédoniens.
Général François Houchin, un grand merci d'avoir accepté d'être notre invité ce soir dans le journal.
C'est moi qui vous remercie.
18h passées de 8 minutes, vous êtes toujours sur Radio Rythme Bleu. On marque une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixone, Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La suite de votre journal avec Léo Fichou.
Une séance chargée mais très rapide pour l'ensemble de la province, l'Assemblée de la province. 8 textes à l'ordre du jour de la séance des élus de la province sud. Les élus qui étaient réunis pendant une heure ce matin. Les textes ont tous été adoptés sans débat, Jean-François Baudin.
Parmi les délibérations adoptées, la révision de la durée de résidence et la simplification du dispositif des bourses scolaires. Après les émeutes face à la baisse des recettes fiscales de la province, l'exécutif avait décidé de porter à 10 ans la durée de domiciliation exigée pour bénéficier des bourses. Décision qui qui avait été attaqué par l'UGPE devant le tribunal administratif. Le juge des référés avait demandé à la province sud de modifier ce nouveau dispositif avant que le tribunal ne se prononce au fond sur ce dossier. La province a décidé de revenir au dispositif antérieur. Gilles Brial est le deuxième vice-président de la province sud.
On avait, suite aux exactions et donc aux baisses du budget de la province sud, souhaité mettre une durée de présence de 10 ans en province sud pour pouvoir être bénéficiaire des bourses. Cette durée, si elle était acceptée au début, elle a été là retoquée par le tribunal administratif en disant que la province sud retrouve un fonctionnement normal. Ce n'est pas du tout le cas, mais en tout cas, le tribunal administratif a pris cette décision-là. Et nous, on a simplement souhaité appliquer le droit. Donc du coup, l'éligibilité pour avoir une bourse au-delà des conditions de ressources, c'est 6 mois de présence maintenant en Nouvelle-Calédonie. Ce qui fait faire 140 millions de dépenses supplémentaires qu'on devra faire en économie sur la masse salariale, sur les interventions des PEPIC qu'on met pour les associations et puis les subventions et interventions auprès des associations.
Les conditions précédentes d'éligibilité sont donc rétablies. La province sud en a profité pour moderniser le dispositif pour permettre des économies de postes pour la province. Le groupe FLNKS a salué le retour à la durée de résidence sur le territoire à 6 mois pour obtenir une bourse, mais il a tout de même voté contre en raison de la mise en place d'une période pour remplir les dossiers de demande de bourse, période qui aura lieu du 1er mai au 30 septembre. Ajoutons que l'UGPE a également introduit un recours contre la province Nord qui avait pris un dispositif du même type obligeant d'être citoyen calédonien pour obtenir les bourses. Parmi les autres points examinés à l'Assemblée de la province sud ce matin, l'élargissement du dispositif d'aide à l'installation et à l'équipement des professionnels libéraux de santé. À l'origine, le texte s'appliquait aux médecins puis aux chirurgiens-dentistes. Étant donné la raréfaction de plusieurs professions médicales et paramédicales, les sages-femmes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes sont désormais éligibles à cette aide. La délibération a été adoptée. Seul le FLNKS s'est abstenu. Écoutez Nicolas Panier, le secrétaire général de la province sud.
C'est d'élargir, pas seulement aux médecins et aux chirurgiens-dentistes, cette aide à l'équipement ou rééquipement, mais de prévoir aussi un certain nombre de professions médicales qui permettent de contribuer à cet objectif de prendre en charge les Calédoniens. C'est les sages-femmes, c'est les infirmiers, c'est les masseurs-kinésithérapeutes. Ce sont donc ces professions sur lesquelles on va pouvoir prendre en charge une partie des investissements qu'ils vont devoir faire. Quand aujourd'hui cet investissement est trop juste par rapport à la situation économique de leur cabinet, on vient apporter ce coup de pouce pour faire en sorte qu'ils se dotent de matériel de plus en plus performant. Et surtout, on voit qu'il y a quand même une diminution du nombre des professionnels qui sont présents. Et donc, on a besoin que ceux qui sont là restent, soient motivés et aient envie de rester. Et surtout, qu'ils aient bien le matériel qui soit le plus performant pour soigner de manière la plus efficace possible les Calédoniens. Parce que c'est aujourd'hui un des enjeux qui est mis en avant par les Calédoniens. Ils ont besoin d'être pleinement rassurés sur la capacité qu'a le territoire à pouvoir s'occuper des problèmes de santé que tout à chacun pourrait avoir.
La province sud a aussi décidé d'aider le monde agricole qui fait face à de nombreuses exactions, vol de matériel, de cheptel ou destruction des infrastructures. Cette aide, qui va jusqu'à 60% des dépenses éligibles dans une limite de 8 millions de francs, permettra de remplacer des biens volés et de réparer les dégâts sur les propriétés. Là encore, la délibération a été adoptée sans les voix du FLNKS.
On intervient en complément des assurances et l'objectif, il est le même, faire en sorte qu'on trouve sur le marché des produits calédoniens en quantité suffisante. On sait que c'est un enjeu très fort de pouvoir augmenter notre capacité à mettre sur le marché des produits qui correspondent aux attentes des consommateurs. Et donc la province, elle veut participer, notamment en aidant ceux qui ont été victimes de vols, de dégradations. Malheureusement, il y en a eu un certain nombre liés aux exactions de 2024. Pour assurer la sécurité des exploitations agricoles, on a modifié le DISPAP, qui est le dispositif qui finance les interventions en faveur du secteur agricole et de la pêche, pour pouvoir permettre aux agriculteurs qui souhaitent acquérir des équipements de sécurité, des caméras ou d'autres dispositifs, de pouvoir les faire financer par la province. C'est un dispositif qu'on a déjà mis en place pour les commerces, pour les cabinets médicaux, parce qu'on a besoin, en complément de l'action des forces de sécurité intérieure, de pouvoir prévenir, de pouvoir rendre plus difficile la tentation qu'ont certains de pouvoir commettre ces exactions. Et d'ailleurs, la province travaille pour la prochaine assemblée à un dispositif qui pourrait aussi concerner les particuliers dans ce domaine-là.
Les élus ont poursuivi avec un débat sur la collecte et la mise sur le marché de la viande de cerf sauvage. La province a pris ce matin la délégation de compétences pour délivrer aux chasseurs et opérateurs agréés les outils nécessaires à la traçabilité, à l'identification et à l'hygiène de la filière. L'objectif étant de professionnaliser et de sécuriser la filière cerf en garantissant la salubrité et la traçabilité de la viande, mais aussi de lutter contre le braconnage.
La plateforme SudPro, une nouvelle fois victime de son succès. En seulement 8 minutes, les 120 millions de francs disponibles pour cette deuxième session du dispositif mis en place par la province Sud ont été attribués. Le secteur du commerce, qui avait largement profité de la première session, n'était pas concerné cette fois-ci pour permettre aux autres secteurs de profiter de cette aide provinciale. Une nouvelle session de Sudpro sera lancée dans 3 semaines. Double visite de terrain pour Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, Jean-François.
Il s'est rendu ce matin dans 2 entreprises qui, après les émeutes insurrectionnelles de l'an dernier, ont su se réinventer pour pouvoir poursuivre leurs activités respectives. Première visite à Païta, dans le tout nouveau showroom de la société IMA qui commercialise notamment les produits de la marque Riff. Avant le 13 mai 2024, cette entreprise était installée à Normandie. Elle est aujourd'hui installée à Païta. Alain Gras, le poids, est le gérant de la société IMA.
On a été dans un premier temps entièrement pillés et par la suite ils ont brûlé les locaux, nos bureaux, nos entrepôts. Aujourd'hui on se bat avec des assurances qui font tout ce qu'elles peuvent pour ne pas payer leur dîme. C'est un combat. Du coup on essaie de renaître de nos cendres tel le phénix mais avec nos propres moyens.
Christopher Gigès est ensuite rendu à Ducos chez AMC, Atelier Mécanique et Chaudronnerie. Cette société n'a subi aucun dégât lors des émeutes de mi-2024, mais elle travaillait beaucoup avec les opérateurs miniers du territoire, opérateurs qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Alors pour poursuivre ses activités, AMC s'est lancé dans la fabrication de bateaux 100% calédoniens. Des visites de terrain essentielles pour Christopher Gigès.
C'est pas en restant dans son bureau qu'on trouve des bonnes solutions, c'est quand on côtoie ceux qui ont beaucoup de courage. Enfin, je le dis à chaque fois, qui ont beaucoup de courage de repartir de l'avant, de se réinventer. Et c'est important d'entendre leurs problématiques pour pouvoir les régler au plus juste. C'est bien les grandes lois, les grandes lois qui prennent du temps et qui sont parfois déconnectées de la réalité. Parfois, on peut aider beaucoup en faisant des petites choses. Et voilà, c'est comme ça que je conçois le mandat de membre du gouvernement. En tout cas, c'est au plus proche des cadres.
Christopher Gigès poursuivra cette tournée des entreprises. Demain, il visitera les installations de l'entreprise Data Service Pacific, une entreprise du groupe SIPAC.
Et avant ses visites d'entreprise aujourd'hui, Christopher Gigès s'était rendu à la station N pour l'ouverture d'un forum consacré à la cybersécurité. Un forum organisé par le Centre Cyber du Pacifique, dont la directrice est Justine Molinier.
Le nombre de cyberattaques a vraiment augmenté et on est vraiment confronté à 2 types de cyberattaques. Des cyberattaques opportunistes où en fait ils ciblent tout le monde et peu importe celui en gros qui mord à l'hameçon. Et après il y a vraiment des cyberattaques qui sont ciblées sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'on est un territoire géostratégique, parce qu'on a quand même pas mal attiré l'œil du monde entier sur nous, notamment depuis les exactions de mai 2024. Et donc effectivement la Nouvelle-Calédonie, contrairement à une idée largement répandue, n'est pas un petit bout dans le Pacifique protégé de toute cyberattaque, bien au contraire.
Justine Molinier, qui est donc la directrice du Centre Cyber du Pacifique, au micro Radio Rythme Bleu de Lionel Sabot. Le marché des transactions immobilières reste sinistré. C'était le thème des Jeudis de l'économie à midi sur Radio Rythme Bleu. Les intervenants ont tous souligné les difficultés du secteur. Le nombre de transactions avait déjà ralenti en raison de la crise économique et les émeutes de mai 2024 ont considérablement aggravé la situation, a expliqué Jean-Damien Ponroy, le président de la Fédération territoriale des agences immobilières.
Le 13 mai a vraiment mis un coup d'arrêt énorme. Aujourd'hui, en 2024, sous réserve des chiffres définitifs, on estime à environ moins 65 à moins 70% la baisse des transactions, donc en volume, donc c'est tout à fait colossal. Ça génère d'énormes conséquences, évidemment, pour les agents immobiliers, pour les recettes du territoire, et évidemment pour les études notariales qui sont tous ces acteurs-là dans une situation très délicate. Il n'y a pas qu'une période d'attentisme, il y a évidemment le fait que lorsqu'on achète un bien immobilier et qu'on est un particulier, on investit sur 25 ans, donc avec les incertitudes institutionnelles et économiques, il faut se projeter. C'est difficile si jamais on n'a pas ces éléments-là. Économiquement, pour les locaux professionnels, c'est une durée un peu plus courte, mais c'est quand même 15 ans. Il y avait en plus un énorme problème d'assurance, donc qui est en train petit à petit de se résoudre. C'est pas complètement gagné, mais on est quand même sur une voie qui est plutôt positive, en espérant que ça se consolide.
En attendant, le marché reste atone. Pourtant, la baisse des taux d'intérêt doit faciliter l'emprunt. Le Congrès vient de voter une baisse des droits d'enregistrement et plusieurs dispositifs fiscaux sont censés relancer le marché. Mais ce n'est pas le cas, constate Alexandre Rodriguez, président de la Confédération des professionnels de l'immobilier.
Les gens ont envie d'acheter parce qu'on aspire tous à pouvoir être propriétaire de son bien. Mais malheureusement, il y a un taux de chômage qui est élevé, donc forcément des difficultés par moment à pouvoir se faire financer auprès des banques locales, malgré des prix qui sont bas. Donc toutes les mesures qui ont été mises en place avec une réduction des droits d'enregistrement de 3,5 sont des bons éléments. C'est peut-être pas assez suffisant aujourd'hui pour réussir à drainer le marché immobilier. On n'est que le reflet d'économie. Donc, dès lors que le taux de chômage sera élevé, on n'arrivera pas à avoir un volume de vente qui soit suffisant.
Cette stagnation des transactions à un niveau très bas a des conséquences en cascade, notamment pour les offices notariaux, pour lesquels la vente de biens immobiliers constitue une source essentielle de revenus, comme l'a expliqué Maître Elisa Mougel, présidente de l'Ordre des notaires.
C'est une profession qui repose sur un équilibre, hein, avec justement ce type d'opérations qui financent les dossiers qui sont quand même plus, entre guillemets, chronophages, plus compliqués, etc., et dans lesquels on assure nos missions de service public. Là, juste pour prendre un exemple, grosso modo, les chiffres d'affaires des offices notariales liés à l'activité immobilière, par rapport au premier trimestre 2023, sur le premier trimestre 2025, on est sur une baisse de plus de 80% du chiffre d'affaires. C'est énorme, c'est inédit, c'est un vrai séisme au niveau de nos activités. Donc on a dû se réorganiser, trouver des solutions, comme tout le monde, essayer le chômage partiel, sachant qu'au bout d'un moment, on est obligé de prendre des décisions et ça veut dire aussi des compétences qui vont quitter la Calédonie. On a quand même, Dieu merci, toute l'activité de droit de la famille qui continue de fonctionner, tout ce qui est succession, etc. Donc c'est des activités qu'on doit continuer et qu'on continue, mais dans lesquelles on est aussi impacté, puisque la baisse des prix a lieu dans tous les domaines. Donc également dans une succession, vous avez des valeurs de biens qui ne sont plus les mêmes.
Extrait des Jeudis de l'économie qui sont à retrouver en intégralité sur notre site internet rrb.nc. 18h20, dernière pause dans ce journal. On se retrouve dans quelques instants pour parler sport notamment.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Vous déménagez? Vous cherchez un bon plan? En famille, en coloc ou avec votre chat? Découvrez l'offre Easy Start avec Lagoon. Internet illimité, modem inclus, téléphonie VOIP, le tout sans engagement. Et en ce moment, jusqu'à 5 mois offerts pour les nouveaux abonnés. Avec Lagoon, vous posez vos cartons et on s'occupe du reste. En plus, jusqu'au 31 août, tentez aussi de gagner une Nintendo Switch 2 en jouant directement sur notre page Facebook. A très vite en boutique. Offre soumise à condition.
Chaque jour, les enfants ont la parole sur Radio Rythme Bleu.
Allons, enfants!
Du lundi au vendredi à 10h50 et à 15h50. Allons, enfants, un rendez-vous instructif et rigolo proposé par la province sud.
Eh ouais!
RRB, 16h, 19h, le tout info.
La fin de votre journal avec Léo Fichou.
Un mot d'histoire avant de parler sport et natation. C'était il y a 72 ans, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1953. Le navire La Monique, qui faisait route vers Nouméa, disparaissait en mer quelques heures après son départ de Tadine à Marée. À son bord, 126 personnes, des passagers, des membres d'équipage, tous ont disparu sans laisser de traces. 72 ans après, et malgré de nombreuses théories, le mystère du naufrage de La Monique reste entier. Et on termine donc ce journal avec du sport. On parle de natation ce soir. Maxime Grousset va tenter de décrocher, après le 50 mètres papillon en début de semaine, un second titre mondial à Singapour. Le Calédonien sera engagé à 22h32, heure de Nouméa, en finale du 100 mètres nage libre. Maxime Grousset qui a réalisé le 5e temps des séries, puis le 5e temps, là aussi, des demi-finales. On l'écoute.
En vérité, je me suis senti assez bien. La Popovici qui part très fort finalement. Je pensais pas qu'il allait partir aussi fort en demi-finale, mais moi je fais le job, c'était le but. Je savais que c'était pas évident de te passer en finale. Je pense qu'il y a quelque chose à jouer. Bizarrement, je me suis pas senti complètement, désemparé, mort. J'ai pas pris un bambou. Je trouve que j'ai bien fait. 500 mètres que j'ai bien maîtrisé encore une fois. Il y a des choses que j'apprends, que je mets en place, que je suis content de mettre en place. C'est pas un truc que j'ai sorti de nulle part. Donc c'est cool. Il faut faire mieux pour la finale, par contre.
Et la finale du 100 mètres nage libre avec Maxime Grousset, c'est à suivre dès 22h32, juste après la finale du 200 mètres 4 nage avec un certain Léon Marchand, le Français qui, je le rappelle, a pulvérisé le record du monde en demi-finale. Après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous.
Cette nuit, des bandes de nuages circuleront sur les Loyautés et la façade ouest du pays. Partout ailleurs, le ciel restera bien dégagé et étoilé. À l'île des Pins et sur la pointe sud-ouest, le vent soufflera autour de 15 nœuds. Le secteur ouest à nord-ouest. Sur l'extrême nord et le nord-ouest, il oscillera entre 5 et 10 nœuds venant du sud-ouest. Ailleurs, le vent d'ouest à sud-est se rapproche des 10 nœuds. Côté température, les minimales remonteront de plusieurs degrés. Le mercure s'échelonnera entre 16 et 19 degrés sur la majeure partie du territoire et entre 12 et 15 degrés dans l'intérieur des terres et aux loyautés. Demain matin, les nuages seront nombreux sur le sud-ouest, la pointe sud et l'île des Pins, où ils laisseront échapper de faibles ondées. Ailleurs, le soleil s'imposera plus franchement, malgré quelques passages nuageux attendus sur le nord-ouest, puis sur marée en fin de matinée. Du côté du vent, sur le sud-ouest et l'extrême sud, le flux de sud-ouest soufflera entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il restera souvent faible et variable.
Merci beaucoup Pierre et merci à vous d'avoir suivi ce journal.